chers auditeurs, bienvenue dans cette belle matinale du 20 mai 2025. Et pour changer, on va sortir un petit peu du studio et je vais vous emmener dans un joli village aux confins de l'Hérault et du Gard pour aller à la rencontre d'un homme qui va vous proposer un événement vraiment chouette, on va dire, voilà, qui va se passer le dimanche 25 mai à Claret. Je suis en compagnie et dans la maison de Thierry Arquet. Bonjour Thierry.
Bonjour Nathalie.
Thierry, alors on va faire quelques confidences quand même à nos auditeurices. On va leur dire que c'est la troisième fois que je viens vous voir et que je rate l'interview. Donc là, on va essayer quand même de faire quelque chose de bien. Déjà, Thierry, peut-être parler de qui vous êtes. Donc auteur, photographe, organisateur, homme curieux, instituteur à la base, sociologue à un moment et surtout fondateur du Salon du Livre et des Arts de Figueroles. Salon qui est enraciné hein, dans un quartier populaire que vous aimez et que vous chérissez même puisque vous y êtes né. Vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur votre attachement à ce quartier de Figueroles ?
Ben, disons que c'est un quartier dans lequel j'ai passé, entre autres, mes 20 premières années de ma vie. Et donc, c'est des moments très importants. C'est les moments où on grandit, on connaît la prime amourette, on vit plein de choses comme ça. Et ça marque, ça reste gravé au plus profond de nous-mêmes. Alors donc, c'est ce quartier qui me tient à cœur. Bon, finalement, j'y ai mes racines, hein, même si ça se discute. Et donc, j'y tiens. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dessus, parce que malgré que j'y sois né, malgré que j'y ai toute ma famille, malgré que je connaissais plein de gens, j'ai fait les écoles du quartier, il y avait un tas de choses que je ne connaissais pas. Je fais référence notamment à la commune libre de Figueroles qui s'est arrêtée au début des années 60. Et à ce moment, je suis né en 1954. Donc voilà, j'en ai eu que des échos, des bruits de fond. Et je ne savais pas vraiment ce que c'était ni ce que faisaient ces gens. Et donc j'ai voulu savoir. Et donc j'ai fait un travail très important de recherche sur cette commune libre qui est un gros monument de l'histoire locale.
L'arrivée des pieds noirs, l'arrivée des gitans, tout ça vous l'avez connu parce que le quartier originel des gitans, des gitans sur Montpellier, c'est pas là, c'est plutôt Candol. Les gitans de Figueroles, ils sont arrivés quand ?
Eh bien, ça dépend parce que c'est, si vous voulez, ils sont arrivés. Ils ont sans arrêt traversé le quartier avant la guerre. Et parce qu'ils étaient maquignons et les habitants de Figueroles étaient consommateurs, entre guillemets, de chevaux. Donc ils faisaient du négoce entre eux. Et puis il y a eu la crise viticole dont on a parlé, le phylloxéra 1907, etc., qui a frappé le quartier. Et donc de nombreuses familles sont parties, s'orientant vers les lieux touchés par la révolution industrielle où il y avait de l'emploi. Et donc il y a des maisons qui sont restées vides au niveau du rez-de-chaussée. Et donc là, les habitants du quartier ont dit « bon, on ne se sert plus de la remise qui est en bas. Si vous voulez y habiter, installez-vous ». Donc il y a eu ce moment-là qui est arrivé en même temps que les mesures de Pétain qui a voulu faire en sorte que la population gitane soit immobilisée, ne se déplace plus. Et donc voilà, tout ça a fait que la population gitane s'est fixée à partir de ce moment-là. Alors évidemment, il y a d'autres histoires avec les autres quartiers sur lesquels je ne m'étends pas. Mais voilà, donc c'est, en ce qui concerne Figueroles, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Puis après, il y a eu d'autres événements. Hein. Il y a eu des événements avec Perpignan, notamment, plus récents. Beaucoup plus récent, qui ont fait que la population gitane s'est développée à Figueroles.
Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie, il y a une dizaine d'années, de créer ce salon du livre et des arts, puisque ça a toujours été la marque Thierry Arquet, c'est-à-dire dans la multitude des salons du livre qui sont proposés dans la région et de plus en plus d'année en année, Figueroles, c'était la particularité de réunir le livre et les arts. Comment elle est venue, cette idée ?
Elle est venue surtout parce que le livre, donc en tant qu'écrivain, je me suis un petit peu investi dans le monde du livre et des auteurs. Et puis, les arts, c'était à ce moment-là, il y avait, notamment sur Figueroles, des mouvements très sympathiques autour des arts. Je pense à l'Atelier du Nord à l'époque, à un lieu tout bête comme le Repas Latin, à l'époque où c'était le fameux Christian qui animait, qui fabriquait les pizzas. Mais ça fait rien, c'était un lieu de rencontre où les artistes se retrouvaient et exposaient aussi des petites choses, parce que c'est tout petit chez Christian. Et donc voilà, c'est ça qui a fait que... C'est ça qui m'a donné envie de réunir ceux qui voudraient. Bon, c'est, tout le monde n'est pas venu, hein, c'est, mais bon, il y a des gens qui sont venus et qui ont exposé leur création, et puis c'était très bien.
Il y avait des acteurs marquants du quartier qui vous ont aidé au début. Souvent, vous citez Mounir Le Taïef. Enfin, je ne sais jamais dire dans quel sens on le dit, Le Taïef, Mounir ou Mounir Le Taïef. Il y avait comme ça. Est-ce que, par exemple, la Pleine Lune, qui était le lieu emblématique quand même de cette place pendant longtemps, s'est mis dans l'histoire, ou est-ce que quand même au début, il a fallu que vous combattiez, que vous y alliez tout seul?
Non, alors bon, Mounir Le Taïef, ça a été le partenaire des animations sur Figueroles pendant de nombreuses années. Donc, puis il s'est retiré de l'histoire pour des raisons que je ne connais pas vraiment. Hein. Je pense que c'est des raisons de santé, mais je n'ai pas les informations. Et puis, comment dire, en ce qui concerne la Pleine Lune, dont vous parliez tout à l'heure, c'était à ce moment-là un changement. C'est-à-dire, il y avait un personnage célèbre qui a géré le bar pendant très longtemps, Jean-Luc Lévesque. Et donc il est parti. Et donc à ce moment-là, ça a été très différent. Et donc on ne s'est plus appuyé sur la Pleine Lune pour faire les choses. Et voilà quoi, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé.
On va quitter Figueroles, parce qu'on n'est pas là pour parler de Figueroles, on n'est pas là pour parler de Claret, donc de ce salon du livre et des arts de Claret, mais qui avait quand même son origine dans Figueroles, hein, et qui a presque aujourd'hui un avenir dans un événement qui aurait dû se passer le 10 mai, qui n'a pas pu se passer à cause de la pluie. C'est le salon du livre, alors là, de Boutonnet. Donc, c'est votre troisième bébé de salon. Mais là, on va vraiment s'attarder sur Claret. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 4 ans, puisque là, on va vivre la 4e édition le 25, il y a 4 ans, vous avez dit, je vais dupliquer, je vais réinventer quelque chose. Comment ça s'est passé, le passage justement d'avoir ces années d'expérience à Figueroles, et pourquoi avoir décidé de le faire à Claret?
Bon, au départ, c'est une rencontre avec Stéphanie Jean, qui est la gestionnaire de la bibliothèque municipale de Claret. Et donc, à tous les deux, on s'est dit, si on organisait un salon des livres, j'ai dit à Stéphanie, j'ai l'habitude. Et elle m'a fait confiance et voilà quoi, c'est parti comme ça. Mais c'est vrai que ça me plaisait quelque part d'amener cette forme de stimulus culturel dans une zone qui s'y prête pas. C'est-à-dire qu'on a affaire à une zone de résidence pavillonnaire où les gens ne sortent pas de leur pavillon et sont pas tellement intéressés par tout ce qui relève de la culture en général. Et donc c'était passionnant d'essayer de dynamiser tout ça en faisant venir des auteurs, des artistes, et en créant un point de rencontre entre tous ces gens. Moi, je vous cache pas que c'est assez difficile à mener, puisque la réaction est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait croire. C'est pas la foule des grands jours qui vient au salon, mais c'est des gens très intéressés, pas forcément des spécialistes de l'édition, de la lecture, de l'art, etc., mais des gens qui sont ouverts à l'écoute, au dialogue, à la discute avec les gens qui sont présents.
Au niveau du public, c'est un public très différent. Je sais que c'est peut-être votre partie sociologue, mais je me rappelle à la 2e ou 3e édition, vous aviez organisé un débat, une conférence sur justement l'accès à la culture dans les milieux périurbain. C'était, vous vous rappelez quand on avait fait cette conférence, c'est un sujet intéressant. Et c'est vrai que comment on vit, comment on transforme un salon qui part de Figueroles, alors là très urbain et je dirais même de quartier, avec des fidèles qui étaient, il y a aussi un milieu un peu intellectuel à Figueroles, à passer justement comme ça à la campagne, avec des gens qui n'ont pas le même rapport à la culture, qui n'ont pas le même accès à la culture. Est-ce que c'était aussi ça qui vous intéressait? On va parler du lieu qui vous plaît après, mais est-ce que le fait d'aller à la rencontre des gens qui n'avaient pas l'habitude d'avoir accès à cette culture, c'est ça aussi qui vous intéressait en allant à Claret?
Oui, c'est sûr que c'est un défi. Hein, c'est un défi qu'on s'est lancé à quelques-uns. Et donc, parce que c'est amusant, hein, de toujours, c'est tonique que de se lancer dans ce genre de choses. Et on a l'impression de défricher du terrain, puisque on apporte des choses qui sont inattendues. Quand l'an dernier, on a fait une conférence sur 1907, la révolte viticole, c'était à la fois intéressant et puis on allait titiller un vieux truc enfoui, c'est-à-dire que le monde viticole doit beaucoup à 1907 et entre-temps il a oublié complètement ses racines. Et donc c'était apporté pour quelques-uns qui étaient intéressés, on apportait ce lien entre une histoire et des témoignages, quelqu'un qui s'était, Rémi Castan, qui s'était extrêmement intéressé à toute l'histoire de la révolte viticole. Et voilà, donc on est arrivé à faire quelque chose d'assez passionnant.
Et puis donc on parlait justement de ce rapport avec leur réalité, mais ce qui vous a peut-être aussi plu à Claret, c'est ce lieu sublime. Il n'y a pas beaucoup de salons du livre qui sont abrités par un lieu aussi beau.
Voilà, tout à fait, c'est un lieu magnifique, un parc qui est, on peut qualifier de grand, qui est arboré et qui a la particularité de se présenter sous la forme d'un petit labyrinthe. C'est-à-dire, il y a des bosquets, il y a des buissons qui délimitent des parcelles de territoire, petites parcelles. Donc les artistes sont paumés dans un paysage assez curieux dans lequel on les découvre. C'est-à-dire, on se promène, on passe d'un bosquet à l'autre. Et alors c'était amusant parce que même moi, qui connaissais, qui les avait placés, etc., il y en a certains que je ne retrouvais plus. Je me disais, punaise, mais où on l'a mis, quoi?
On passe presque d'ailleurs, non seulement d'un bosquet à l'autre et d'un endroit à un autre, mais d'un univers à l'autre. Parce que d'ailleurs, l'année dernière, il y avait Isabelle Beaurepaire, hein, qui est dans l'histoire, dans l'organisation de Claret depuis quelque temps, avait fait un petit concours comme ça où les visiteurs votaient pour le plus beau lieu. Et c'est vrai qu'il y a des auteurs ou des exposants. D'ailleurs, ce n'est pas un peintre qui a gagné, hein, c'était un poète qui avait aussi des œuvres, mais c'était un poète. Les participants prennent grand soin à créer, justement dans ces îlots, un univers personnel.
Oui, tout à fait, tout à fait. Chaque lieu comme ça est un lieu d'expression. C'est-à-dire, il prend une âme particulière en fonction des gens qui l'occupent. Et c'est magnifique, parce qu'on rentre dans un univers et on a alors loisir de comprendre beaucoup de choses sur les messages que veulent laisser les deux ou trois participants qui sont présents là. Alors ça crée cette espèce, on parlait de magie, et cette sorte de magie, je sais que pour la radio protestante, le mot magie, il n'est peut-être pas bien choisi. Je me souviens, j'avais un ami moine qui, chaque fois que je parlais de magie, il tressautait sur sa chaise. Et ça, ça me faisait rigoler. Alors, je ne sais pas si avec le mot magie, je produis le même effet à mes auditeurs. Mais bon, c'était de réalité. C'est-à-dire, il se passe quelque chose d'imprévisible et qui relève de la transmutation du plomb en or. Hein. C'est, à un moment donné, pouf, ça se crée.
Mais c'est ça, c'est vraiment des moments magiques que vous pouvez avoir, et dans un univers, et en passant à un autre, et comme ça, en échangeant univers, et ça, on va en parler en deuxième partie d'émission, aussi sur, à chaque fois, des thématiques, puisque une des spécificités aussi du Salon du Livre et des Arts de Claret, c'est de ne pas être orienté vers un sujet. Vous allez, en allant là-bas, vous allez rencontrer des auteurs pour enfants, des auteurs policiers, des auteurs de romances, des auteurs régionaux, et puis des peintres, des photographes, des gens qui créent des objets aussi, un peu de tout. Mais on va en parler en deuxième partie d'émission, Thierry. On va marquer notre pause musicale. Et vous avez choisi pour nous un souvenir des années 80 avec Richard Gottener, et c'est le Sampa. Quelques mots sur ce choix?
C'est le côté dynamique de la chose qui m'a séduit. C'est-à-dire que voilà, j'espère que tous les auditeurs vont danser le Sampa. Oui, c'est pas compliqué. Hein.
Si on ne sait pas.
Voilà, on va danser le Sampa et on se retrouve juste après. On se retrouve après Richard Gottener et le Sampa. On a hésité en parlant du choix musical avec Thierry. On avait aussi le Kiki. Voilà, il y avait plein de choses. Alors, ça paraît peut-être du premier degré, Gottener, mais quand on écoute au deuxième degré, c'est très fin, et dans la musique et dans le texte. Thierry, on va rentrer dans le gras du sujet, comme on dit. Hein, voilà, de comment ça va se passer cette journée, et déjà, à quelle heure ça va commencer.
Voilà, alors donc les auteurs et les artistes vont trouver porte ouverte à partir de 8h pour décharger leur matériel. Et là, il n'y a pas longtemps, on était avec un des artisans d'art qui a des choses un peu encombrantes et donc qui calcule son coût pour être installé commodément son stand le matin. Bon, c'est le cas de nombreux. Puis d'autres, on a quelques auteurs qui ont un seul livre. C'est-à-dire que je suis très sensible à ça, aux auteurs qui sont débutants complets et qui présentent leur premier et dernier, allez savoir, livre. Mais enfin, ils en présentent un et j'aime bien. Je trouve c'est pas la notoriété flambante, mais c'est une expression de soi. C'est un flash, un clin d'œil. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de magie. C'est ces gens-là qui vous éclairent les yeux, qui vous font briller des choses. Et voilà, j'aime bien.
Vous en lisez des textes d'auteurs ? Il y a des auteurs qui vous offrent, par exemple, leurs livres, ou vous, quand vous y allez, il y a des livres qui vous tentent et que vous vous offrez ?
Ça m'arrive. Je sais pas, le dernier que j'ai acheté, c'est M. Karsenak, qui a écrit un livre de science-fiction, on dira, assez surprenant. Et donc voilà, je l'ai lu avec... je l'ai dévoré. Et très bien écrit, hein, c'était un peu que le féliciter pour sa qualité d'écriture.
Et il sera là ?
Oui, bien sûr, il sera là cette année encore, oui.
Donc, vous nous dites à 8h les auteurs, et surtout, je pense que ceux qui ont un peu plus de boulot, c'est les artistes, parce qu'ils doivent vraiment faire une installation sur les grilles qui sont à leur disposition, d'ailleurs, parce qu'elles ne seront pas placées, on espère, les grilles. Hein, voilà. Donc, les auteurs arrivent, ils prennent leur table. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce désir d'autonomie, c'est-à-dire que les auteurs prennent leur table, s'installent, ils ont des places numérotées. Les artistes installent sur des grilles, si elles sont là, on croise les doigts. Et puis, à 10h, les premiers visiteurs arrivent.
Voilà, c'est l'heure d'entrer sur le stade, hein, un petit peu comme on entre dans l'arène. C'est vous allez affronter les lions, chers spectateurs, chers public. On va lâcher les fauves.
Et là, donc la matinée s'écoule. La première animation de mémoire, c'est donc un concert de musique, un duo de musique brésilienne, c'est ça ?
C'est ça, de la bossa nova, avec le duo Passim. Qui est claritain, que je ne connaissais pas. Hein. C'est des gens qui se sont proposés par relations interposées. Et donc, voilà, c'est super. Ça va être un moment très agréable, vous savez, parce que c'est doux, c'est enveloppant, ça va bien dans l'idée d'un salon des livres. Alors, ce sera l'occasion aussi de déguster la restauration qui vous sera proposée, avec donc deux camions, deux food trucks. On va parler anglais, je ne sais pas comment on dit.
C'est ça, on va faire simple.
Ouais. C'est d'habitude, ce n'est pas le style de la maison, mais bon. Et donc, avec la Normande Dean, qui prépare des crêpes, y compris des crêpes végétariennes, etc. Et au délice, un autre food truck de spécialité sucré-salée, qui vend des hot dogs, aux frites. Voilà, donc, des choses très différentes. L'une comme l'autre, mais qui vont satisfaire le palais des visiteurs, sans oublier le vin, évidemment. Hein, le vin Perle de Claret, le vin bio du domaine La Fournaca, qui vous sera présenté par l'éleveur Gilles Vitilingom, qui sera présent sur place et puis qui sera là pour vous faire déguster les meilleurs vins de Claret.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs, un de vos partenaires, c'est Autour du Pic, que les vins du Pic Saint-Loup sont une des appellations qui sont quand même très protégées en ce moment. C'est vrai qu'avec la crise viticole, on en parlait avec Rémi Castan l'année dernière, il y a -30%, -40% de ventes hein, dans certaines régions. Dans le Pic Saint-Loup, dans l'appellation Pic Saint-Loup, la demande est quand même supérieure à l'offre, donc on a quand même la chance d'être dans un beau terroir à Claret.
Voilà un terroir où ça marche bien. Et avec quand même sur le territoire, il y a quelque chose comme 75 domaines, hein, c'est énorme, qui sont sur un territoire relativement limité et qui sont sous l'appellation d'origine protégée, petit Pic Saint-Loup. Donc, c'est tous des vins d'excellente qualité. Hein. On vous en présente un, mais on aurait pu vous en présenter 75, mais c'est un peu laborieux.
Déjà, on propose 60 artistes, auteurs, on ne va pas en plus faire 60 vignerons, ça va faire beaucoup de monde. Donc, on a dit le matin, on peut venir se promener quand il fait encore frais, prendre un apéro avec une bossa nova, rester pour manger, ou alors venir aussi à l'heure de la sieste pour empêcher les auteurs de dormir. Après les bons repas et les bons mets de Normandine et de Haut-Délice, l'animation après l'après-midi va se passer en balade, en rencontre, Radio FM Plus, moi, donc on sera là pour animer. Isabelle Poropère, qui participe au comité d'organisation du festival, vous propose aussi, vous prépare en ce moment quelques belles surprises d'animation. Mais l'animation d'après, elle est importante, surtout pour les Claretins, puisque ça concerne leur ancien maire. Là, je pense que vous pouvez nous en dire pas mal sur Christian Jean, je crois.
Voilà, donc c'est un scoop, hein, puisque c'est l'apparition en exclusivité du dernier livre de Christian Jean, qui a fait le bilan de sa vie. C'est 30 ans de mandat de maire, plus autant de conseiller général, à l'époque on disait ça. Et c'est pas rien, donc il connaît parfaitement. Il est à la base de tous les grands projets de Claret. Et donc il a fait un travail remarquable. Et donc c'était passionnant que de le rencontrer, de travailler avec lui. Donc c'est moi qui ai travaillé à ce livre avec lui. D'écouter son témoignage qui relève de la sociologie. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment 30 ans de vie sur un territoire avec des tas de gens, des tas d'anecdotes racontées, décrites. C'est vraiment passionnant. Même pour tous les gens qui sont de Claret et d'alentour, puisqu'il était quand même conseiller général. Donc.
Dans les années combien ?
Alors, je crois qu'il y a une dizaine d'années, il faut reprendre le livre, pour les dates exactes, il y a une dizaine d'années qu'il a jeté l'éponge, un peu plus de 10 ans. Ouais.
C'était des années justement où la ruralité changeait aussi. Il a été vraiment témoin. Enfin, moi, je suis arrivée dans les années 80 à Montpellier. Je ne dirais pas que c'était une grosse ville de province, mais c'était quand même un peu ça. Et évidemment, Montpellier grossissant comme une grenouille, s'agrandissant de tous les côtés, évidemment, ça a touché les zones périurbaines. Et Claret, d'ailleurs, c'est assez cher, Claret, hein, pour y vivre. C'est un village aussi qui a quand même 1200 habitants, qui a 1700 habitants, qui a un tabac, un café, une boulangerie, une pharmacie. Enfin, moi, je vois, je suis un village un petit peu après, vous aussi, on est dans un village avec moitié moins d'habitants, où tout ça, on n'a pas. À Claret, il y a un centre de santé. C'est quand même 30 km de Montpellier, extrêmement vivant, Claret.
Voilà, il y a énormément de choses. Il y a pas... On parlait tout à l'heure du côté culturel qui n'est pas vraiment à la hauteur. Mais sur le plan des commodités, tout s'y trouve. C'est-à-dire que les gens qui habitent là trouvent chaussures à leurs pieds, si j'ose dire. Que ce soit pour des problèmes de santé, que ce soit pour des problèmes des alimentaires, de faire ses courses, etc. Épicerie, on y trouve de tout. Et d'ailleurs, ça marche bien, hein, les commerces locaux sont relativement prospères.
Et très sympa. Je pense à Julie, par exemple, à l'épicerie de chez Julie. Il y a un petit marché le samedi matin. Il y a évidemment, on n'en parle pas à chaque fois qu'on se rencontre, mais je ne sais pas si ce sera... Je pense que c'est fermé dimanche, mais sinon, quand vous passez en semaine, il y a la Halle du Vert, hein, qui est un lieu superbe, puisque c'est sur le chemin des Vieux. Ça sera ouvert. Ben voilà. Vous pourrez faire et la Halle du Vert, et le Salon du Livre et des Arts. Thierry, il reste même pas 5 minutes. Je voudrais quand même qu'on parle de la fin de journée, puisque... Philippe, alors vous allez me dire son nom de famille, j'oublie toujours. Philippe, le maire, va venir nous faire un discours et je crois que c'est important aussi que les habitants rencontrent leur maire à cette époque, enfin à cette occasion-là. Et puis les auteurs aussi qui se doivent de rester avec le maire et de remercier aussi l'accueil que leur font tous ces villages.
Oui, donc le maire, c'est Monsieur Philippe Tourier, hein, qui a la gentillesse de nous accueillir. Dignement, hein, vraiment, puisqu'il offre l'apéritif, il nous fera un petit discours de salutation, hein, c'est pas un discours fleuve qui nous endormira. Et voilà, ça va, ça va être super. Alors effectivement, comme vous le disiez, on convie tous les auteurs, tout le public, les habitants du village à venir à ce moment-là, donc vers 17h, hein, pour 17, je crois que c'est 17h30 même l'heure de l'apéritif. Voilà, oui, 17h30 pour comment dire, participer à ce moment agréable, convivial. Hein, de...
Est-ce qu'il faut expliquer que le Salon du Livre et des Arts, il n'y a pas de subvention, vous n'avez aucune aide, vous y allez tout seul. Bon, il y a une aide matérielle de la mairie, mais ni la région, ni le département ne vous aident à monter un salon, qu'il y a quand même des frais, que c'est aussi... Beaucoup de travail de monter un salon comme ça, d'aller chercher évidemment les trucks, hein, vous en parlez, les repas, tout, c'est, rien n'est facile. Il y a quand même des partenaires qui vous suivent depuis le début. On parlait de mes collègues de RCF. Il y a des journaux aussi qui vous relaient. Vous pouvez dire un petit mot peut-être pour ces partenaires ?
Oui, alors je parlerai de la revue Autour du Pic, donc qui doit normalement nous... Enfin, il faut espérer que ça sorte avant le salon. C'est toujours le problème parce que les délais de publication sont curieux. Et donc, j'espère que ce sera prêt. On a l'Écho des Cévennes qui nous publie l'affiche. On a donc FME+, hein, qui nous suit et nous soutient avec tout avec passion, avec beaucoup de force et nous remonte le moral. Quand on a des moments de spleen, de blues, de tout ce que vous voudrez. Mais ça arrive, hein, ça arrive malheureusement, parce que bon, c'est jamais simple. Hein, vous savez, dans la vie associative, il y a toujours des tensions, il y a toujours des frictions, et il faut garder la main sur la barre pour traverser les écueils. Et voilà, donc on fait tout ça. Et donc on espère que ça va se passer comme on le veut, et on espère surtout que vous viendrez tous, parce que c'est important de nous soutenir, c'est important de vivre ces expériences, hein, que quel que soit l'âge que vous ayez, vous allez avoir quelque chose de sympa à écouter. Et donc ça va être super. Vous voyez, voilà, il y a des auteurs divers et variés qui vont vous présenter des merveilles de choses artistiques qui sont à ne pas louper.
Et à tous les prix, hein, voilà. Il y a des livres qui commencent à très peu cher, et puis il y a des objets d'art. Je me rappelle l'année dernière, il y avait Jean-François Rigaudin qui était parmi nous, et je me rappelle d'avoir vu quelqu'un, les sculptures de Rigaudin sont très particulières, hein. C'était une espèce de grande pièce bleue. Je revois les acheteurs partant avec. Je voulais juste, avant de nous quitter, de parler de deux choses. Thierry, reste une petite minute. Déjà, faire un petit hommage peut-être, parce que je sais que vous le connaissiez, que vous l'aimiez bien, à Denis Lénard qui vient de nous quitter, qui a fait un salon à Claret. Et puis, finir en donnant aussi un rendez-vous en septembre, puisqu'hier, vous m'avez donné la date d'une surprise de septembre, du teasing.
Oui, oui. Donc alors, on va commencer par Denis Lénard qui... Évidemment, sa disparition me touche beaucoup puisque je le connaissais bien. Il était venu au salon de Claret il y a 2 ans. Mais après, ça tombait mal parce que le salon était empiété sur les dates d'ouverture de la cabane trempée. Alors bon, la possibilité de changer la date parce que c'était compliqué, même en n'ayant pas cette possibilité là cette année on a tout faux parce que la communauté de communes organise son marathon et voilà, donc,
et puis le teasing pour septembre.
Ah voilà, alors donc là effectivement la date du salon des livres et des arts de Figuerolles est arrêtée au 14 septembre, donc ça va être bientôt là les préparatifs et les inscriptions des auteurs. Donc je lance un appel à candidature. Et donc les gens ont mon adresse en général, ou ils me trouvent sur Facebook, etc.
Ou à la radio.
Ou par l'intermédiaire de la radio, oui, bien sûr, par Nathalie et FME+.
Merci beaucoup Thierry Arquet de m'avoir reçu pour la 3e fois. La leçon, je vois qu'il est bien dans la boîte. Et donc, merci d'avoir participé à cette matinale du 20 mai. Et on donne rendez-vous à tous nos auditorices le dimanche 25 à partir de 10h pour des balades, des rencontres, un café, un repas, une crêpe, un discours et tout ça à découvrir avec la magie et le merveilleux de cette journée du 25. Au revoir Thierry Arquet.
Au revoir Nathalie.